ceux que je n'ai pas pris le temps de saluer ce matin, ou que je n'ai pas vu tout simplement. Nous allons faire, pour introduire le message, une lecture dans le premier livre des Corinthiens, le chapitre 7. Alors l'idéal pour comprendre tout, le contexte, ce serait de lire tout l'épître de Corinthiens, mais ce serait trop long bien évidemment. Mais toute l'épître des Corinthiens nous parle de situations très particulières, de situations qui peuvent nous concerner tous. Donc je vais prendre dans le chapitre 7 quelques versets, non pas au hasard, mais pour juste les cibler les uns aux autres. Donc 1 Corinthiens, chapitre 7, on va commencer au verset 7. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? Et on va finir avec le verset 24. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. On va d'abord s'arrêter sur le verset 7, le premier que j'ai pu lire. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Un don particulier. Nous avons chacun en nous un don particulier. Alors lorsqu'on parle des dons, on parle évidemment des dons de l'esprit, on pense forcément à tous les dons de l'esprit, donc le don de la foi, le don de guérison, le don des miracles, le don de la parole de connaissance, le don de la sagesse, enfin il y a les neuf, peut-être le don des langues, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Donc là, quand on parle de dons, évidemment, on parle forcément de tous ces dons qui sont, lorsqu'ils sont interprétés au sein d'une église, sont des dons très spectaculaires parce qu'on voit vraiment la puissance de Dieu se manifester. Mais là, je parle d'un petit don, mais vraiment petit, minuscule, qui tient en nous, qui ne se voit pas, qui est discret, qui gère notre quotidien, en fait. Nous avons tous reçu de la part de Dieu un don pour notre quotidien. Et c'est peut-être le titre de mon message aujourd'hui. Dieu gère mon quotidien. Dieu connaît mon quotidien. Et ça, c'est la surpuissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se met d'une façon extravagante, mais c'est en nous. On a chacun de nous un don particulier qui nous permet de vivre notre quotidien. À nous d'utiliser ce don, ou de ne pas l'utiliser. Et qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça veut dire que c'est Dieu agit, Dieu connaît mon quotidien. C'est pour ça que j'ai pris plusieurs versets bibliques, parce qu'en fait, quand on les prend, on est tous concernés. Il y a des fois, notre situation que l'on vit nous pose souci. Et c'est une réalité. On peut souffrir d'être célibataire. Pour d'autres, ça va passer comme à rien. Mais pour certains, ce sera quelque chose de très dur. Et comme on réagit tous différemment par rapport à la souffrance, par rapport aux événements, ce qui pour moi va être complètement anodin sera pour ma sœur, mon frère, une énorme montagne infranchissable. Et inversement. Donc j'ai pris les versets différents, mais ça nous parle. Il est parlé des célibataires, de ceux qui sont veuves, en fait, de ceux qui vivent seuls. Il est parlé des problèmes de couple. Alors le célibataire, ah oui, mais je pourrais servir le Seigneur, ce serait beaucoup mieux si je serais marié quand même. À deux, ça pourrait y aller. Puis quand on est marié, au début de notre mariage, je parle aux jeunes mariés, il y a quelques étincelles parce que on a chacun nos habitudes. Hein. Ah, c'était mieux quand j'étais célibataire. Hein. Seigneur, change la situation parce que là, ça va pas. Mais non, Dieu va pas changer la situation. Verset 24. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était. C'est bien marqué devant Dieu. Et là, ça change tout. On peut demeurer dans notre situation sans Dieu. C'est peut-être une catastrophe. Mais que chacun demeure devant Dieu dans la situation où il était lorsqu'il a été appelé. Alors oui, ça, parfois, ça fait des frictions. Je suis jeune retraité depuis quelques semaines. Michel est en retraite depuis 5 ans. Je vous garantis que j'arrive avec mes gros sabots et que je dérange. Parce que, elle a pris ses habitudes en étant seule à la maison. Et moi, j'ai pas mes habitudes encore. Donc j'arrive, pourquoi tu mets ça là, ça me gêne. Et je veux dire, on le vit au quotidien, on se retrouve dans ça. Mais bon, c'est réciproque, hein. Je la gêne aussi. Et parfois je me dis, c'était mieux quand je travaillais quand même. Sauf que Dieu va pas changer la situation. Je vais pas retourner travailler. Donc, j'utilise le don que Dieu m'a donné pour affronter cette situation. Et c'est la même chose dans les couples inconvertis, hein. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Il y a des couples mixtes, un converti, l'autre qui n'est pas croyant, pas chrétien. Ça fait des frictions. Mais ce qu'il y a de bien dans ce que nous dit Paul, il n'est pas en train de dire que telle situation est meilleure que l'autre. Il nous dit, si tu es célibataire, c'est bien. Mais si tu veux te marier, c'est bien. Lorsqu'on est dans un couple où tout marche bien, ne vous séparez pas. Mais si vous le faites, attention. Dans les couples mixtes, il ne dit pas « sépare-toi de ton conjoint ». Il dit « tu as la liberté de le faire, mais si tu le fais, si tu te sépares de ton conjoint converti, c'est bien, mais si tu restes, c'est encore mieux, parce que tu es une bénédiction pour ton conjoint. Et tu as un don en toi qui va permettre que ça va y aller plus loin. » Dieu ne nous dit pas « je vais rompre ton couple parce que ça m'a mal ». Non. Reste dans l'état devant Dieu où tu étais. Et ça change tout. Et on s'y retrouve. Il y a même les problèmes religieux avec la circoncision ou l'incirconcision. Parfois, on va dans une église, on se dit « Ah, mais là, c'est trop religieux quand même. Hein. Si c'était pas aussi religieux, je pourrais servir le Seigneur. » Puis là, c'est pas assez religieux. Hein. Si c'était un peu plus... Voilà. On est tous comme ça, mais c'est la nature humaine. Hein. On n'est jamais content de notre situation. Quand on est enfant, on n'aime pas la soupe à maman. On va chez mamie, la soupe est toujours meilleure.
Alléluia.
N'est-ce pas? Mais on est dans ce contexte-là, en fait. Et c'est ce que Paul nous explique. Et pour ça, lisez tout l'Épître aux Corinthiens. Parce qu'on se retrouve tous, plus ou moins, dans les situations qui sont données. On se retrouve tous, et à un moment donné, dans notre vie, on va dire, « Seigneur, change. Change la situation, parce que j'en peux plus. » Mais est-ce que Dieu va changer la situation à chaque fois? C'est pas sûr. C'est même sûr que non, d'ailleurs. Parce que c'est pas ta situation qui veut changer. Dieu ne veut pas changer ma situation. Il veut changer mon cœur. Et parce que mon cœur va être changé, je vais aborder la situation différemment. Et parce que j'aurai laissé Dieu agir en moi, je verrai ma situation différente. Et peut-être qu'au lieu que ça soit une montagne, ça va devenir une petite colline. Et puis après, ça va devenir une autoroute bien plate où je pourrais avancer. Mais c'est important. Et on est dans ce contexte-là, dans les Corinthiens. Et nous voyons que Paul répond à toutes les demandes, à toutes les questions qui sont posées par l'Épître aux Corinthiens. C'est une jeune église. Hein. Quand Paul écrit son Épître, c'est une jeune église. Alors elle est confrontée à tout ce genre de problèmes, à tous les problèmes que je viens de citer. Parce qu'ils n'ont pas encore la réponse, parce qu'ils ne sont pas encore éclairés. Mais Paul ne juge pas. Il connaît la situation de son Église. Paul est un bon berger qui connaît son Église et qui répond à chacun des problèmes sans porter de jugement. en apportant juste une solution. Quoi que tu fasses, fais-le en étant devant Dieu. Fais-le en utilisant le don que Dieu t'a donné. Et on reviendra tout à l'heure sur qu'est-ce que ça peut être ce don qui est en nous. Parce que nous l'avons tous. Nous avons tous en nous ce don pour notre quotidien, pour notre vie de tous les jours. Oui, Paul est celui qui connaît la situation. Ouais, mais moi, j'habite pas Corinthe. Alors Paul, il ne peut pas connaître ma situation. C'est vrai. D'abord, il y a un décalage de temps. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui connaît ta situation. Est-ce que Dieu ne connaît pas ma situation? Est-ce que Dieu n'est pas au courant de ce que je vis? Est-ce que Dieu ne connaît-il pas ma souffrance, mon désarroi? La Bible nous dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il répond. Mais oui, il répond tout le temps. Sauf qu'il ne va peut-être pas répondre comme moi je le veux. Moi je veux, Seigneur, tu changes ma situation, j'en ai marre. Et Dieu va te dire, reste dans ta situation, mais devant moi. Et ça va tout changer. C'est l'intérieur qui doit changer. Je pense à quelque chose au bâtiment. Vous savez, parfois il y a des immeubles qui sont devenus très vétustes. Parce que à une époque, la politique du logement, c'était un peu de ghettoiser les populations. On mettait telle catégorie sociale dans tel immeuble, telle catégorie d'origine dans l'autre immeuble, etc., etc. Et il s'avère qu'avec le temps, les immeubles deviennent vétustes. Et il faut tout nettoyer, tout refaire, tout reconstruire. Et les immeubles qui ont fait ça ont parfois remis la même population à l'intérieur. Ce qui fait que 3-4 ans après, l'immeuble il est toujours aussi vétuste. Alors que quand on a changé la population, quand on a fait un mix de la population, les cas sociaux, telle personne étrangère, les choses évoluent. Et l'immeuble que vous avez restauré reste beau. Parce que c'est l'intérieur de l'immeuble qui a changé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne porte pas de jugement sur telle ou telle population, mais c'est une réalité. Ça ne vit pas de reconstruire un beau bâtiment. Il ne s'agit pas de changer ma situation. Mais lorsque l'intérieur change, tout change. Et ça, c'est important. Donc oui, Dieu connaît ma situation. On sait que Dieu, il est tout-puissant. Il a l'omniscience. Il est celui qui connaît tout. Le psaume 147 nous dit, au verset 5, « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » Au verset 4, juste avant, il nous est dit « Il compte les étoiles et il leur donne un nom. » Nous avons un Dieu tout-puissant qui est capable de compter les étoiles et qui est capable de les nommer. Alors s'il est capable de connaître l'univers qu'il a créé, à plus forte raison est-il capable de nous connaître, nous, personnellement. Jérémie 1,5 « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et là, c'est une réalité pour chacun de nous. Avant même que nous soyons conçus, Dieu nous connaissait. Dieu connaît le livre de notre vie. Tout est indiqué dans sa vie, dans ce livre. Dieu connaît tout. David pouvait dire dans le psaume 139, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. » Dieu nous connaît. Luc 12 va même plus loin. Il va dire que chaque cheveu qui sont sur notre tête est compté. Et il y en a des milliers. Ouais. Personne ne pourrait les compter. Même les miens où j'en ai pas beaucoup, je ne pourrais pas les compter. Mais Dieu connaît. Alors je n'irai pas dire qu'il nomme chaque cheveu de ma tête, mais il en connaît le nombre. Donc c'est quelques versets juste pour nous montrer que Dieu est omniscient, omnipotent et qu'il connaît tout. Il a la toute-puissance, il connaît tout. Alors il connaît ma vie, il connaît tout de moi. Il connaît ma souffrance, il entend mes larmes, il entend mes cris. Il voit ma situation. Et est-ce qu'il va la changer? Je ne sais pas. Il y a des exemples dans la Bible où une situation dramatique a été changée. Je pense au roi Ézéchias dans Ésaïe, chapitre 38. Au verset 1, il nous est dit ceci: « Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Il est atteint d'une maladie visiblement incurable et cette maladie l'emmène en fin de vie. Et Dieu lui le dit carrément: « Prépare tout ce que tu dois préparer, mais mets tout en règle, de toute façon, tu vas mourir. » C'est très direct. Je ne suis pas sûr que ça remonte le moral, mais... En tout cas, c'est direct. Et là, il y a Dieu envoie son prophète Ésaïe pour annoncer ça au roi. Et au verset 2, on voit Ézéchiel qui se fait une prière en disant: « Ô Éternel, toi qui connais toutes choses, tu sais que j'ai marché fidèlement devant toi, fais que ma situation change, quoi. » C'est un peu ça, c'est pas tout à fait dit comme ça, mais en gros, il pleure, il prie devant Dieu en disant: « Mais là, non, je peux pas. Je ne peux pas mourir demain, je ne peux pas, j'ai encore plein de choses à faire, je ne peux pas. J'ai été fidèle, Seigneur, est-ce que tu peux changer cette situation ?» Et bien la suite nous montre au verset 5 que Dieu dit à Ésaïe, dit au roi: « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajouterai 15 années à tes jours. » Là, Dieu change la situation. C'est formidable, n'est-ce pas? Ah, si ça pouvait être tout le temps comme ça. Je pleure, je prie, je me mets à genoux. Ah, tout change. Non. C'est Dieu qui est souverain. Et nous, on n'a rien à dire. Par contre, il nous donne la force. Si Dieu ne change pas notre situation, il nous donne la force d'aller plus loin. Dieu ne changera pas toujours mon quotidien. Mais il me donnera toujours la force pour que je ne sois plus limité par mon quotidien. Elle n'est pas de moi, mais je l'aime bien. Dieu ne changera pas toujours mon quotidien, mais il me donnera toujours la force pour que je ne sois plus limité par mon quotidien. Parce que c'est vrai que notre quotidien, la souffrance de notre quotidien peut nous limiter. Mais il va me donner la force pour que mon quotidien ne limite pas ma vie, pour que je ne sois pas limité ni esclave de mon quotidien. C'est énorme, ça change tout. Joseph, le papa de Jésus, aurait certainement aussi aimé que la situation change quand il a appris que sa future femme était enceinte, mais pas de lui. Je pense que secrètement, d'ailleurs c'est marqué dans la Bible, secrètement il a voulu rompre. Secrètement il a voulu changer la situation. Et l'ange de l'Éternel est venu le voir en disant: « Non, non, il n'y aura pas de changement de situation, tu vas épouser Marie. » C'est comme ça. Et heureusement qu'il l'a fait. Heureusement que Dieu lui a donné la force d'aller plus loin. Parce que Jésus serait peut-être pas né. Ou du moins, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais en tout cas, ça aurait été différent. Mais la situation de Joseph n'a pas changé. Elle est restée la même. Enfin, ah oui. Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Il y a l'ange de l'Éternel qui un jour débarque devant Gédéon. Salutations, vaillant héros. Ouh. Non mais, ange, ma famille est la plus petite et je suis le plus petit de la famille. Alors, vaillant héros, Dieu est avec moi. Ça, il faudra peut-être que tu changes la situation, hein, parce que je ne suis pas un vaillant héros. Et Dieu lui répond: mais va avec la force que tu as. Et la situation de Gédéon n'a pas changé. Il a simplement pris la parole de Dieu: « Je vais avec la force que j'ai. J'ai un don quotidien qui me permet d'aller plus loin. » C'est un peu ça. Dieu me donne la force d'aller plus loin, quelle que soit ma situation. Et on voit quel résultat il a obtenu en se pliant à la volonté de Dieu. Il est resté dans son état d'avant, mais devant Dieu. Il est toujours resté le plus petit de la plus petite famille, mais il s'est placé devant Dieu. Et il a mis en pratique le don qui pouvait être en lui. Quelle force! Chacun tient de Dieu un don particulier. À chacun de nous de trouver ce don particulier qui va nous permettre justement d'aller plus loin, qui va nous permettre de franchir cette situation désastreuse pour chacun de nous. Ah, vous connaissez l'histoire de Paul aussi. Lui aussi, il aurait bien aimé que sa situation change. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, il nous est dit qu'il a une écharde, quelle qu'en soit la forme, je ne sais pas trop, c'est pas précisé. En tout cas, il a quelque chose dans le corps qui l'empêche de vivre et qui visiblement le tourmente, le trouble, peut-être le fait souffrir. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 8, « Par 3 fois j'ai prié pour que cette écharde s'en aille. » Il a prié pour que sa situation change. Mais Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit. » C'est pas du tout la réponse qu'il a dû aimer attendre. C'est pas forcément non plus la réponse que j'ai envie d'entendre quand je suis dans une situation qui me fait mal. « Ma grâce te suffit. » Bon. Eh bien, on va continuer avec ta grâce. Puisque ta grâce me suffit, je la prends. J'ai foi. Et Dieu nous dit ça ce matin. Va avec la force que tu as et ma grâce te suffit. Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ma douleur. Il connaît tout. Mais il nous dit ce matin, voilà, tu as un don particulier en toi. Alors maintenant, ma grâce te suffit et tu vas de l'avant. Et tu verras que les choses vont changer. Et quand je commence à utiliser ce don, à le reconnaître déjà en moi, et à l'utiliser, c'est incroyable comme les choses changent. Et là, ça devient vraiment un don spirituel qui est spectaculaire. Parce que tout change autour de moi. Tout évolue, tout bouge. Et c'est pas l'autre qui a besoin de changer finalement. On s'aperçoit qu'en ayant accepté de changer soi-même, bah, l'autre il se calque à ton changement, avec amour, avec bonté, avec bienveillance. Donc la situation de Paul n'a pas changé. Et on voit quel ministère il a reçu. Je parlais tout à l'heure qu'on avait tous un don particulier. Là, je parle d'une grâce. Et je crois que, historiquement, dans les mots, c'est la même chose. À chacun sa grâce. Alors, qu'est-ce que c'est justement ce don qui est en nous ? Qu'est-ce que c'est que cette grâce qui est dans chacun de nous ? Nous avons la réponse. Parce que quand je suis en souffrance, quand la situation, quand les circonstances qui m'entourent me mettent en souffrance, de quoi ai-je besoin ? D'être consolé ? D'être écouté ? Et là, la réponse, ça nous arrive dans Jean 16, chapitre 7, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ne sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit à partir du moment que nous avons accepté Christ dans notre vie ? Et ce don particulier que nous avons tous en nous, c'est ce Saint-Esprit qui est en nous. C'est ce Saint-Esprit qui va venir pour nous consoler. Et avant de nous annoncer le Saint-Esprit comme une grande puissance qui va œuvrer par tous les dons dont j'ai cité tout à l'heure, le Saint-Esprit nous est présenté comme le Consolateur. Celui qui connaît mes pleurs, celui qui va me prendre dans ses bras, en quelque sorte, et qui va me consoler. Celui qui va me dire, t'en fais pas, tu n'es pas orphelin, je suis là. Je suis au plus profond de toi, il y a un temple là où j'habite. Alors ouvre la porte du temple, ne me laisse pas enfermer dans ce petit temple, mais laisse-moi ouvrir, ouvre cette porte du temple, et tu vas voir comment je vais pouvoir te consoler. Tu vas voir comment je vais pouvoir te porter. Et oui, c'est nous qui détenons la clé de cette porte. Parce que tant que le Saint-Esprit reste dans notre temple enfermé à l'intérieur, ben il ne peut pas y avoir de changement dans ma vie. Il ne peut pas y avoir de choses qui vont exploser, qui vont jaillir de moi. Et ça ne marchera pas. Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement le consolateur. Il est aussi celui qui nous fortifie. Éphésiens 3, 16. Paul fléchit le genou afin que Jésus-Christ nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il est aussi celui qui nous transforme. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ces deux versets nous montrent bien que ce don particulier que nous avons, cette grâce que nous avons particulière en nous, ce Saint-Esprit qui agit en nous, agit au plus profond de l'intérieur, de façon à ce que l'extérieur de notre corps, de notre chair, de notre corps charnel, reflète l'image du Seigneur. Mais ça commence par l'intérieur. Et ma situation sera transformée quand moi je serai transformé de l'intérieur. La vision de ma force, de ma situation, des circonstances qui m'entourent seront transformées lorsque mon intérieur sera transformé. Lorsque mon intérieur sera consolé. Lorsque mon intérieur sera fortifié. Et puis, l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26-27, nous dit que le Saint-Esprit nous conduit et qu'il intercède en notre faveur. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et c'est vrai que lorsque la situation de mon quotidien est difficile, parfois on n'a plus envie de prier. De toute façon, il y a des fois on ne sait même plus prier. On ne peut plus prier. Parce que dès qu'on ouvre la bouche, ça y est, on pleure. Boum. On devient hypersensible et ça dégouline dans tous les sens. Mais c'est comme ça, c'est humain. D'ailleurs, c'est bien, ça montre au moins que nous sommes humains. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là, il intercède à notre place. Il s'exprime par des soupirs inexprimables. Mais puisqu'il s'adresse à Dieu et que Dieu connaît tout, Dieu connaît et entend la prière du Saint-Esprit en ma faveur. Parce que oui, par moments, la souffrance est telle, la situation est tellement douloureuse. Moi, je ne peux plus. Seigneur, lâche prise parce que là, moi, je ne peux plus. Et le Saint-Esprit qui est là, intervient. Ce don particulier que nous avons tous en nous prend le relais et agit avec puissance, avec autorité. C'est intéressant de communiquer avec le Saint-Esprit, de lui dire, oh, Saint-Esprit, mon Dieu, je suis tout seul dans ma situation, ça ne va pas. Eh bien, Dieu va nous répondre au travers du Saint-Esprit et il va nous donner la même réponse qu'il a donnée au serviteur d'Élisée lorsque dans 2 Rois, chapitre 6, Israël est attaqué par les Syriens. Il y a le serviteur d'Élie qui panique en disant « Tu as vu tous les chars, tu as vu tous les chevaux, tu as vu toute l'armée qui est autour de nous. » Et Élisée va faire cette prière en disant « Père, ouvre les yeux de mon serviteur. » Et là, les yeux de ce serviteur s'ouvrent et il voit la puissance de l'armée céleste qui est autour d'eux, au-dessus d'eux, en dessous, à droite, à gauche, partout. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il se passe exactement la même chose quand je laisse le Saint-Esprit agir dans ma situation personnelle. Ceux qui sont contre moi sont en nombre inférieur par rapport à ceux qui sont avec moi, par rapport à l'armée céleste. Et lorsque je demande au Saint-Esprit de prendre le relais, mes yeux s'ouvrent et je vois le combat qui se passe dans la sphère spirituelle. Un combat où nous sommes vainqueur. Parce que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Est-ce que j'ai ouvert ce don qui est à l'intérieur de moi? Est-ce que ce matin, je l'ai compris, ce don particulier que Dieu m'a donné? Et je le répète, Dieu ne nous demande pas de changer de situation et il ne va pas changer la situation. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ce même verset, on le retrouve deux fois dans le chapitre 7, au verset 24 et au verset 20. Parce que Dieu ne va pas changer ma situation. Il va me donner le moyen d'aller plus loin. Alors maintenant que je sais que le Saint-Esprit est là, que ce don est là, que je peux le saisir, comment je réagis face à ma situation douloureuse? Je suis résigné, un peu du genre Matthieu 16, 24. Bon, je suis Jésus, alors je porte ma croix. Je me résigne, je suis résigné. C'est peut-être pas ce que Dieu nous demande. Porter sa croix, c'est pas ce contexte-là. C'est déjà renoncer avant tout à soi-même. C'est pas porter la grosse croix, je sais pas combien qu'elle fait le kilo, mais même celle-là, je crois que je pourrais pas la porter. C'est pas porter physiquement une croix. C'est justement laisser Dieu. C'est changer notre cœur. Je peux aussi fuir. Parfois, c'est la solution. Courage, fuyons. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Hein. Courage, fuyons. Parfois, c'est salutaire. Mais ça ne l'est pas toujours. Parce que je ne suis pas là pour fuir. Paul disait dans 2 Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai mené la bonne course. Gédéon, c'est va avec la force que tu as. Dans les deux cas, c'est pas fuir, c'est combattre. Mais pas tout seul. Combattre devant Dieu avec la puissance du Saint-Esprit qui nous est donnée. Je m'arrêterai là pour ce matin. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin. Même si c'est plus court que d'habitude. Tant pis. Père éternel, je te loue parce que tu es notre force. Parce que tu as mis en nous un don particulier qui nous permet de vaincre les épreuves, qui nous permet de prendre des victoires en toutes choses. Alors ce matin, je te dis merci. Merci pour ce que tu as mis en chacun de nous. Merci parce que tu nous as donné cette puissance. Et je te prie pour chacun de nous afin que vraiment nous puissions mettre en avant ce don particulier que tu nous as donné pour chacun. Merci d'agir au plus profond de notre être, pour que nous soyons changés de l'intérieur et que nous devenions vainqueurs sur les circonstances de notre vie. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen.